Holistique, l'émission qui murmure aux oreilles des responsables associatifs. Éducation populaire,
association,
sport,
vie pratique,
humanitaire,
militant,
solidaire,
engagement,
conseil. Holistique.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Holistique, l'émission qui parle de la vie associative dans l'Indre et de ceux qui la font vivre. Donc ce programme vous est présenté par la Ligue de l'Enseignement et ce soir j'ai l'occasion d'accueillir trois invités. Donc Nathalie Rigaud d'Indre Nature.
Oui, bonjour.
Bonjour. Raoul Petit de l'association Kuda Kuda.
Bonjour.
Et Colette Fernic de la ville d'Argenton-sur-Creuse.
Bonjour.
Alors on va commencer par vous Nathalie, donc, qui représentez l'association Indre Nature, qu'on ne présente plus ou presque, mais bon, on va quand même en parler et la présenter, à savoir qu'est-ce qu'elle fait cette association, et puis vous aussi, quel est votre parcours pour être arrivé jusqu'ici. Donc voilà, qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé ici?
Alors, je suis originaire de l'Oise et je suis arrivée dans l'Indre il y a à peu près 23 ans. Et bon, j'ai toujours été bénévole en association. Avant d'arriver là, je suis arrivée dans les associations par le sport, en fait, par l'équitation. Et en arrivant dans l'Indre, tout naturellement, pour prendre contact avec la population, quand on arrive quelque part, le plus simple, c'est quand même de passer par les associations. Donc, j'ai été 13 ans bénévole pour les familles rurales de Maillé. Et puis, en même temps, bénévole à l'USA d'Argenton, donc la section gymnastique, où je donnais des cours aux enfants, puisque c'est par le biais de mes enfants aussi que j'ai pu intégrer le milieu associatif.
D'accord,
au départ.
Donc, ça fait donc plusieurs années que vous êtes, enfin au moins une quinzaine d'années que vous êtes dans l'Indre, en fait.
Oui, oui, bah, 23 ans. 23 ans, oui.
D'accord.
Et puis voilà, donc comme l'environnement est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, une fois que j'en ai eu fini, entre guillemets, avec les familles rurales et la section gymnastique d'Argenton-sur-Creuse, je me suis tout naturellement tournée vers Indre Nature et puis l'espéranto aussi.
D'accord, alors je sais que l'environnement est un sujet assez important quand même pour vous, même en dehors d'Indre Nature.
Oui, oui, oui. Moi, j'essaye de mener une vie le plus proche de la nature possible. J'ai fait des voyages en essayant de mettre en avant la tranquillité dans les transports. Donc, voyage à cheval en France pendant 4 mois. Et puis au Brésil, mais avec les transports en commun. Et puis toujours l'espéranto comme fil conducteur, parce que c'est une langue internationale qui permet, entre autres, de voyager.
On dit saluton, c'est ça?
Saluton, oui.
C'est le seul mot que je connais, en fait.
Ah, on en restera là, alors.
Et vous avez écrit aussi un livre, je crois, un recueil un peu de...
Oui, oui. C'est un livre sur les 2 voyages que j'ai fait justement, avec les enfants, en emmenant les enfants, des scolarisations des enfants, notamment aussi. Et voilà, où je parle justement de l'engagement bénévole et de protection de l'environnement.
D'accord. Alors on va parler maintenant un peu de l'association que vous représentez, en tout cas ce soir, donc Indre Nature. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, Indre Nature, globalement, qu'est-ce que c'est? Quelle mission Indre Nature remplit sur le territoire?
Alors c'est une association qui a été créée en 1988, mais qui prenait la suite à ce moment-là d'une association qui existait antérieurement. Et c'est une association de protection de l'environnement, donc qui fait partie du réseau national de France Nature Environnement, mais qui intervient sur le département de l'Indre uniquement. Mmh. Donc cette année, on approche les 800 adhérents. Et la particularité, je pense, peut-être de par sa taille, c'est qu'il y a une douzaine de salariés et également beaucoup de bénévoles qui interviennent, notamment ceux qui sont au conseil d'administration, puisqu'on est 12 au conseil d'administration, 12 bénévoles pour gérer l'association.
Ah oui, c'est un gros conseil d'administration,
oui.
Très actif, quoi.
Oui, oui, avec une réunion tous les mois et beaucoup de sujets à voir chaque fois.
Et puis vous gérez donc du coup, c'est à la fois des salariés et puis des bénévoles.
Voilà, c'est ça. D'accord. Donc après les missions, c'est la protection de la biodiversité, des milieux naturels, essayer d'intervenir pour la protection de l'eau, sur les sujets de l'eau. Et puis pour les salariés, ce sont des naturalistes pour la plupart qui interviennent sur des missions bien spécifiques, qui sont des missions de l'État, des communes ou de la région.
D'accord. Et vous pouvez nous citer récemment quelles actions Indre Nature a menées, enfin voilà, un exemple, quelques exemples.
Alors, par exemple, il y avait l'action Objectif Mare. Alors, Objectif Mare, ça a rassemblé des bénévoles et des salariés. Et donc, c'était une mission régionale qui a permis de recenser les mares publiques, les mares communales, et de les restaurer, en même temps de donner des conseils aux particuliers pour qu'ils puissent aussi s'investir dans la restauration des mares. Et puis, donc voilà, sinon il y a... Alors, dans l'association, il y a les bénévoles se sont constitués en groupes. Et donc, il y a à peu près 7-8 groupes, notamment... Alors, par exemple, je peux citer le groupe Buzard, qui, lui, s'occupe de, au moment de la période de nidification des buzards, de repérer les nids dans les champs.
Alors, je n'y connais rien, moi. Mais buzards, c'est des oiseaux de proie.
Oui,
c'est ça,
oui, 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 okay. Des rapaces qui nichent au sol dans les champs de céréales de préférence, hein, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, puisque, en plus, avec à l'avancée de la récolte du fait du réchauffement climatique, en général, les buzards n'ont pas fini de nicher quand il est temps de se récolter.
Vous avez perçu des changements dans l'Indre suite au changement climatique, enfin, récemment, ces dernières années?
Donc il y a celui que je viens de citer, oui. Bien sûr, mais au niveau de l'eau, c'est assez catastrophique. On a un groupe eau d'ailleurs qui gère tous ces problèmes-là, qui sont surtout des problèmes techniques et juridiques. Donc là, les bénévoles du groupe eau sont très 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 sollicités et très c'est quelque chose de ils sont pas beaucoup sur le terrain, mais beaucoup sur des dossiers. Et donc oui, au niveau de l'eau, c'est que ce soit les nappes phréatiques ou les rivières, il y a vraiment un problème très très important et qui forcément une grosse baisse de biodiversité aussi.
D'accord. J'aimerais moi savoir un peu comment on s'articule, puisque je sais que c'est un enjeu important pour beaucoup d'associations, mais comment s'articulent ces bénévoles, ces 800 bénévoles et les 12 salariés, comment ça fonctionne?
Alors les salariés sont plutôt sur des actions... on va dire public, et puis à chaque fois qu'il y a des appels à projets et que l'association répond à des appels à projets, les salariés interviennent et sont chargés de ces missions. Et puis les bénévoles, il y a toutes sortes de bénévoles, hein. On est plus ou moins investis. Et donc il y a ceux qui peuvent n'intervenir que pour par exemple pour aider à la gestion de l'association. Il y a ceux qui viennent pour faire la revue de presse, ceux qui viennent pour mettre sous pli le Mosaïque, qui est le journal de l'association, etc. On a parfois des missions là de revoir les stands ou refaire le point sur les expositions, des choses comme ça. Les bénévoles un peu plus investis qui sont donc du coup au conseil d'administration. Et
voilà. Ok, très bien. Alors, on va parler ensuite encore un peu du bénévolat voilà, comment vous arrivez à recruter les bénévoles, à les garder aussi, puisqu'il y a quand même des bénévoles qui arrivent, des bénévoles qui partent, hein, c'est un peu normal, et en particulier aussi depuis le Covid, hein, les choses, je sais que pour les associations ont été parfois un peu compliquées sur le recrutement des bénévoles. Donc, comment ça se passe à Indre Nature?
Alors, c'est vrai qu'on a, un peu comme toutes les associations, une petite crise des bénévoles.
C'est le moment de passer
un message. Tous ceux qui sont intéressés peuvent nous rejoindre. L'ambiance est très bonne. Et puis, on peut choisir justement son créneau, ce qui intéresse le plus. Et donc,
je crois que vous avez déménagé, il me semble. Maintenant, vous êtes... Indre Nature a
oui,
déménagé.
Oui, effectivement, on a déménagé en début d'année. Donc, mmh. on est 63 avenue Marcel Lemoine. Et donc, on a investi des locaux beaucoup plus importants qui nous permettent d'avoir créé une maison de la nature et de l'environnement dans laquelle on pourra faire plus d'animation qu'avant. Okay. Et donc, il y aura des expositions toute l'année.
Donc, les gens peuvent venir dans les locaux pour... Oui. Voilà, s'ils sont intéressés par de l'information ou même peut-être donner un peu de leur temps.
Tout à fait. Il y a toute la salle en bas qui est une salle d'exposition et il y a beaucoup de livres à disposition. Et puis, justement, dans le bas de ces locaux, il y a toute une partie qui est réservée aux bénévoles ou aux groupes qui veulent venir et s'investir sur place. Et sinon, bon, quelque chose qui permet un peu de recruter les bénévoles, c'est au moment de l'adhésion, on a un questionnaire sur ce que les gens ont envie de faire. Et on peut leur proposer en même temps, là où on a besoin d'aide, on leur parle des groupes, des différents groupes qui existent de bénévoles, et pour qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire. Et puis sinon, là, il y a un groupe jeune qui vient de se créer, donc ça, c'est peut-être l'intérêt du service civique. Parce qu'il me semble que c'est un ancien service civique qui a décidé de créer ce groupe jeune.
D'accord.
Et donc il a carte blanche quasiment pour recruter et on espère justement avoir plus de jeunes.
D'accord, oui, plus de jeunes et un peu... parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup des retraités pas spécialement.
Si, je pense que la majorité est peut-être retraitée.
Ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'un drone nature. C'est vrai que grâce aux retraités, c'est les retraités en partie qui font vivre le monde associatif. Et c'est vrai qu'on cherche, toutes les associations cherchent aussi à recruter aussi des jeunes et, pour qu'ils puissent investir. Voilà.
Surtout sur un sujet comme ça,
sur l'environnement,
c'est quand même un sujet d'avenir.
Tout à fait, tout à fait. Alors, bien, c'est le moment de faire une petite pause musicale. Donc, on va écouter Lico. The Echo. Voilà. À tout de suite.
My voice is resonating, resonating, resonating. I try to find myself within two mountains. The moon as a natural light to guide my steps, to guide my steps. Sometimes we walk, sometimes we run, but that to that each will be the same. So take your time to reflect. I am alone, I am alone, I am alone in this forest. I'm just hearing the sound of the nature. My voice is resonating, resonating, resonating. My voice is resonating. Resonating, resonating. The echo like a mirror, transparency of my spirit throughout the echo. An introspective lesson, I have to give it a chance, it will never change your words, just tell you in silence. That experience is a lesson, so I listen. The sound of the nature. My voice is resonating, resonating, resonating. My voice is resonating, resonating, resonating. Of myself between
crises resonating. My voice is resonating, resonating, resonating.
De différents côtés, il me revient que des cafetiers, des hôteliers ou même de simples particuliers.
Alors, vous êtes toujours sur Assolistique, l'émission qui parle de la vie associative dans l'Indre, avec mes trois invités. Je rappelle également, on avait oublié, mais que Indre Nature peut être contacté par la page Facebook et puis également le site internet, voilà, d'Indre Nature. Donc maintenant, on va passer à notre deuxième invité, donc Raoul Petit. Donc, vous représentez l'association Kuda Kuda. Voilà. Et également aussi un lieu qui s'appelle La Cloche. Hein. Voilà, donc après on va faire un peu la différence entre les deux, puis concrètement qui est quoi et quoi. Voilà, donc est-ce que vous pouvez vous présenter, votre parcours aussi, qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à être vice-président, c'est ça, de Kuda Kuda.
Voilà, bah surtout co-fondateur.
Co-fondateur.
Avec Emmanuel Céalis, et après on se répartit les fonctions administratives. Je pense qu'au départ de tout ça, il y a le premier centre de vacances. La première fois où j'étais animateur en colonie, à 18 ans, et la rencontre avec l'éducation populaire. Et la volonté de poursuivre dans cette voie. J'étais étudiant en physique, je pratiquais de la musique. Voilà, j'étais curieux un petit peu de tout. Et la rencontre avec l'éducation populaire a été assez marquante. Et au moment d'aller dans la vie active, je voulais rencontrer l'éducation populaire, et partout où j'allais, on me disait que c'était le déclin, que c'était terminé, qu'on ne pouvait plus faire. C'était cette époque-là, on était en 95. Et donc, après avoir essayé de découvrir tous les milieux où c'était possible de penser l'éducation d'une nouvelle manière pour correspondre aux générations qui arrivaient et aux évolutions de la société, toutes les solutions étaient principalement vieillissantes. Aujourd'hui, on a des écoles de musique. Avant, il n'y avait que des conservatoires pour conserver le patrimoine et pas pour le développer. Et donc, j'ai fondé une école de cirque pour des raisons d'éducation populaire. J'étais pas artiste de cirque. Et là, toutes les portes sont ouvertes, toutes les fantaisies étaient permises. On pouvait construire une structure éducative pour les enfants, un espace d'échange pour les adultes qui n'était pas basé sur la confrontation, la compétition, la sélection par l'élite et toutes les valeurs qui, pour moi, détruisent la société plutôt que la construisent.
Cette école de cirque s'appelait comment ?
C'était le Cirque d'Orge. C'est toujours à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne.
Ah, c'est dans l'Essonne, d'accord.
Voilà. Okay. Oui, je suis originaire de l'Essonne.
Oui, je suis né à Corbeil-Essonne aussi.
Ah, voilà.
Et je vous en prie, continue.
Et donc, cette aventure a duré 10 ans, puisqu'on parle de ça. Ensuite, je me suis intéressé aux arts de la rue. Donc, j'ai une structure qu'on appelle maintenant un tiers-lieu, mais c'est un espace autogéré dans l'Essonne, à Soleil-Chartreux, qui s'appelle Animact, et qui accueille des artistes. En résidence, principalement, organise des festivals et les citoyens se sont appropriés cette association qui au départ était un petit noyau assez fermé, dont je faisais partie, j'étais fermé à ce moment-là, et la pression populaire a forcé à ouvrir la structure, à s'intéresser aux projets d'initiative citoyenne et à porter ces projets et à découvrir qu'ils étaient bien plus intéressants que ceux qu'on pensait en tant que pseudo-sachants, parce qu'on ne savait pas grand-chose non plus. On n'était pas peut-être des pionniers, mais pas forcément des...
Donc sur ce projet-là, d'art de la rue, c'est vraiment une demande aussi, un besoin des citoyens qui s'est fait ressentir. Il y a eu une vraie intégration des citoyens dans la construction de ce projet, quoi.
Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Nous, on voulait développer les arts de la rue pour ramener un idéal d'un spectacle ouvert sur le monde, non sélectif, qui va à la rencontre des habitants, quels qu'ils soient. Et ça, ça nous a proposé à nous une ouverture, mais nous, on avait une vision fermée parce qu'on pouvait, on voulait ramener une culture qui venait d'ailleurs, principalement, en fait, les arts de la rue, culturellement en France jusqu'à ce moment-là, dans les années, jusqu'aux années 2000, c'était principalement des gens qui font la manche, des artistes qui font la manche sur les lieux de vacances. Et de ramener cette ambiance le reste de l'année, c'était ça. Dans ces artistes qui font la manche, il y a des pépites, des choses qui n'existent pas en dehors, dans les théâtres, d'une nouvelle manière d'approcher les choses. Et ces artistes, une fois qu'on leur a donné, qu'on les a payés, quoi qu'ils fassent, plutôt que de faire la manche à la fin du spectacle, ils ont fait des choses extraordinaires. Donc on voulait rapporter ça, mais ça s'est rapporté. Donc ça, c'est plus une excuse. Ensuite, moi, ce que j'en vois maintenant, c'est que c'est une excuse pour aller à la rencontre des citoyens et que ça nous... de nos concitoyens, et que de ces rencontres puissent naître d'autres choses, puisqu'on est dans un endroit, a priori, où on n'aurait pas dû se rencontrer, on est dans une cour oubliée, dans un village, on rencontre un artiste qui vient complètement d'ailleurs, qui fait une proposition complètement loufoque, et donc on est hors de toutes nos contraintes, et de là peuvent naître des idées, des initiatives communes, tiens, on est là ensemble, on peut parler de tout et de rien, et de là avoir... un atome crochu pour une aventure qui ne nous concernait pas juste avant, 5 minutes avant.
On est en plein dans l'éducation populaire, là. C'est vrai que...
Et donc de ce lieu de résidence...
Là on est encore en Essonne, on n'est toujours pas dans l'Indre.
Pas dans l'Indre. Ce que je ramène avec Emmanuel de ces aventures, c'est... davantage cette rencontre avec les initiatives populaires et citoyennes provoquée, pour ce qu'on en connaît, par soit l'éducation artistique, soit par les œuvres artistiques partagées dans des milieux surprenants, que cela même, que la pratique ou les échanges des arts, qui ne sont que, pour moi, que des prétextes.
Et du coup, après cette période dans l'Essonne, vous êtes arrivé dans l'Indre à un moment ?
Dans l'Indre à un moment, d'accord. À l'occasion...
C'était quand ?
C'était il y a un an et demi.
Ah oui, donc c'est vraiment tout récent, quoi.
Voilà.
D'accord.
C'est,
Et vous avez créé, en tout cas, vous avez co-créé l'association Kuda Kuda, c'est bien ça ?
Oui.
D'accord. Et alors, si vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Kuda Kuda, puis c'est aussi, ce que c'est aussi par rapport à la cloche, ce qui est deux choses qui sont liées, j'ai l'impression.
Oui, c'est très lié. L'idée, c'était de... pour rendre dynamique ces échanges, de rencontrer des personnes quand on avait envie, d'être dans un territoire surprenant et où il y a de la place pour l'innovation. Donc ça, l'extrême sud de l'Indre, à la Carrefour.
À Lignac. Hein.
À Lignac, hein, donc on est vraiment au carrefour entre le Poitou, le Limousin et le Berry, tout à la. Donc, là où tous les autres points s'annulent. Et c'est donc un territoire vierge pour pouvoir. Inventer d'autres choses loin des influences puissantes. Et donc de disposer d'un lieu. Donc l'ancienne école de Lignac, l'ancienne école catholique, donc qui est un très ancien bâtiment, mais qui est au cœur du village, avec le soutien, les prêts financiers personnels des gens de Lignac en particulier. Puisque les banquiers ne veulent...
L'argent a été prêté en partie par des habitants de Lignac.
Par les habitants de Lignac, oui.
C'est intéressant.
Parce que des expériences, de nombreuses expériences collectives que j'ai traversées, la solution du bâtiment privé est beaucoup plus simple. D'accord. Et que de passer par des collectivités. Les collectivités peuvent soutenir ce qui les intéresse dans un bâtiment privé et pas le reste.
L'association possède le bâtiment ou comment ça se fonctionne?
Non, pour l'instant, elle en a l'usufruit.
D'accord.
Okay. Et on trouvera des solutions pour le financement au fur et à mesure de l'avancée. Kuda Kuda, c'est faire des choses ensemble et on trouvera des solutions ensemble.
Alors aujourd'hui, puisque un an et demi, c'est pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il s'est déjà passé plein de choses. Qu'est-ce que fait Kuda Kuda maintenant ?
Eh bien, on se donne des occasions de se rencontrer pour créer des choses ensemble. Et on ne sait pas quoi, ça pourrait être... on a plein d'idées de cuisine collective, d'activités pour les enfants, de soirées d'échanges, de jeux. Ce qu'on développe principalement le premier projet qui est parti parce que c'est la volonté des personnes qu'on a rencontrées. Faire ensemble, c'est faire ce qu'on a envie de faire ensemble. Donc on avait envie d'ouvrir un café-concert. Donc on a décidé tous ensemble qu'un vendredi sur deux, on pouvait se faire une soirée-concert à la cloche. Et donc on a une cinquantaine de places dans une ambiance très, très sympathique au coin du feu avec la cheminée. Et comme il y a beaucoup de choses l'été et très peu de choses l'hiver, beaucoup moins, on a concentré la programmation sur l'hiver. Et on a une douzaine de spectacles. Donc oui. Le prochain, c'est le 20 janvier. Oui, c'est les frères La Pompe qui nous proposent un concert de jazz manouche. Mm-hmm. Donc ça, ce sont les guitaristes du Berry qui se sont réunis cette année et qui viennent nous jouer leur répertoire basé autour de celui de Django Reinhardt, mais aussi de quelques autres. D'accord. Et on alterne donc la moitié d'artistes locaux, des nouveautés. On a accueilli Marmotte, c'était son premier mm-hmm. concert dans l'Indre, le 4 novembre. Et on terminera la saison avec aussi une compagnie de théâtre de l'Indre. Mm-hmm. Et entre-temps, d'autres artistes qui viennent de notre réseau historique aussi. Manu Cialis a joué dans des très grandes fanfare, et donc tous les musiciens de ces grandes fanfares qu'il a côtoyées ont des projets personnels qui viendront nous présenter.
Et du coup, la cloche, en plus, c'est ça, veut être dans l'esprit un lieu entre un peu ouvert où tout le monde peut venir apporter aussi une idée ou de l'énergie. Enfin, le bénévolat, comment les gens peuvent apporter leur soutien ou leur temps sur ce projet-là?
Eh bien, c'est d'abord des rencontres. Donc d'abord, il faut se rencontrer et on ne fait que ce qu'on fait ensemble. On ne part pas de l'idée d'une personne qui a une idée. Ces idées-là ne fonctionnent pas.
On n'est pas en mode projet.
Voilà, les projets, pour moi, c'est très intéressant. Et pour moi, ça sert à encadrer des salariés qui vont suivre ce projet, les bénévoles.
Il y a des salariés à Kuda Kuda ? D'accord, pas de salariés, c'est pas prévu pour l'instant.
C'est pas prévu à court terme, parce que notamment pour définir ce qu'on a, justement le projet. Il me paraît important que les activités, les projets engagés soient faits, montés et pensés par les habitants. Et non pas encadré par un professionnel qui va savoir quelque chose, mais s'il sait quelque chose, ça vient du passé. Mmh. Et ce qu'on construit ensemble, les valeurs collectives, appartiennent à l'avenir et on ne le connaît pas. Mmh. Donc il me paraît important de passer par plusieurs années sans salarié pour que les citoyens se sentent propriétaires des projets et des initiatives. Et ça pose des questions.
Et se conscientisent sur le lieu, sur le projet. Parce que je suppose qu'à Lignac, alors je ne connais pas, je pense que je n'y suis jamais allé encore, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses sur Lignac au niveau culturel sur le village de Lignac?
Culturel, il y a une très grande une culture de la chasse, de la pêche, de l'entraide, de la solidarité, de l'agriculture. D'accord. Il y a plein de cultures à Lignac.
Oui, très bien, très bien. Comment, du coup, on peut vous contacter?
Eh bien, le plus simple, c'est de passer par la page Facebook de Kuda Kuda La Cloche Lignac ou de nous contacter sur asso.kudakuda@gmail.com. Ça, c'est plus... Il faut s'en souvenir.
D'accord. Eh bien, très bien, c'est noté. Donc, on va... nous, il est l'heure de faire une petite pause musicale encore. Cette fois-ci, on va écouter le manche-balle avec la soufflette. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure.
Il me revient que des cafetiers, des hôteliers... ou même de simples particuliers, auraient recommencé à organiser des bals à l'occasion des fêtes, ou même le dimanche, au mépris de toute décence. Le chef de l'État compte sur la jeunesse. Aussi a-t-elle assurément mieux à faire que de se livrer à des divertissements sans idéal, dont, au surplus, ni l'esprit, ni le corps ne la bénéficient.
Para. Ya la con la tuya, todo, 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 todo qu'on en est. Je pense qu'on peut l'apprendre à un certain nombre de gens, je veux dire apprendre à aimer la musique.
Et moi j'y étais, moi qui vous parle.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Assolistique, l'émission de la vie associative dans le département, présentée par la Ligue de l'Enseignement. Donc après avoir parlé avec les personnes représentant les deux associations que sont Kuda Kuda et Indre Nature, maintenant on va un peu se tourner du côté politique locale avec Madame Colette Fernic. Donc vous êtes maire adjointe en charge de la vie associative, mais pas que, beaucoup d'autres choses aussi. Donc même question, qui êtes-vous et puis quel est un peu votre parcours pour comment êtes-vous arrivé jusqu'ici?
Alors voilà, moi non plus je ne suis pas née dans l'Indre, nous l'avons tous choisi, mais je crois qu'il y a très peu de gens qui sont nés dans l'Indre ici. Moi je suis alsacienne et j'avais un passé... peu associatif, même si j'avais été beaucoup animatrice de colo et de centre de loisirs aussi, et formatrice pour le BAFA et le BAFD à l'UFCV en Alsace. Mais c'est vraiment en arrivant à Argenton-sur-Creuse en 91 que j'ai découvert ce que c'était que la richesse du milieu associatif pour faire des choses, pour se rencontrer, pour être en dehors du professionnel ou du strict familial ou amical. Et j'ai adoré ça. Je fais du théâtre amateur depuis des années et donc j'ai découvert ce que c'était que le théâtre amateur dans une région comme l'Indre. Il y a tout style d'association, tout style de manière de l'envisager. Et donc, assez rapidement, avec des amis, nous avons fondé l'association L'Atelier Théâtre du Merle Blanc à Argenton-sur-Creuse pour mettre en place, pour aller vite, des ateliers de pratique théâtrale pour adultes animé par des professionnels. Ensuite, toujours à Argenton-sur-Creuse, la municipalité d'alors, au début des années 2000, a rénové une ancienne salle de spectacle et c'est devenu l'avant-scène, l'ancien théâtre du Merle Blanc. Et là, très vite, on a fondé une nouvelle association, l'avant-scène, éponyme de la salle, qui programme la programmation professionnelle soutenue par le pacte régional dans cette salle qui sert aussi à plein d'autres choses puisque c'est une salle municipale. Donc moi, à chaque fois, j'ai été très vite bénévole active dans ces associations-là.
Et à ma connaissance, l'avant-scène est entièrement gérée par des bénévoles. C'est bien ça ?
L'association avant-scène, oui. Mais la salle de l'avant-scène, elle, elle est occupée par d'autres organisateurs de spectacles, aussi bien justement des spectacles professionnels que des spectacles amateurs, les écoles, l'école de musique ou du spectacle associatif.
D'accord.
Voilà. Et donc, j'avais des enfants aussi qui ont fait du sport, qui ont fait plein de choses et qui ont aussi profité de la richesse associative à Argenton. Donc, une fois élue, j'ai été élue en 2014. Et ce qui m'intéressait avant tout, c'était le culturel. Donc, j'ai été maire adjointe chargée de la culture. Ce qui a été vraiment une ouverture sur comment être aux manettes et quelqu'un d'important, un pivot justement de rencontre entre les associatifs. Parce que le culturel dans l'Indre à Argenton-sur-Creuse s'appuie beaucoup justement sur des organisateurs associatifs. Et puis depuis 2020, le deuxième mandat, j'ai été chargée des relations du partenariat avec les associations, toutes les associations d'Argenton, et puis aussi de l'égalité femmes-hommes, qui est une de mes militances. Voilà.
Oui, puisque vous avez fait, il me semble en 2021, une marche féministe.
Oui, on a monté une marche féministe avec deux copines, et à partir de là est né un collectif qui s'appelle Les Collectives, Les Pieds de Biche Animées.
Je confonds,
et d'accord. On retrouve un peu les mêmes personnes.
Animées, un
des points de cette marche féministe, d'accord, où nous avions renommé des rues d'Argenton, du nom d'Argentonaise ou d'autres femmes invisibilisées depuis longtemps, Germaine Rouillard, mais aussi Simone de Beauvoir, Alice Milia, voilà par exemple. Et depuis, ce collectif existe toujours, se réunit toujours, j'en profite, les 8 et 25 de chaque mois, à la salle Charles Briot, à 20h. 8 pour le 8 mai, 25 pour le 25 novembre, qui sont deux journées importantes pour le droit des femmes, et qui permettent que ça ne se passe pas toujours les mêmes soirs de la semaine, parce qu'il y a certaines femmes qui aimeraient participer, ou certains hommes d'ailleurs, qui ne sont pas libres certains soirs. Donc ça permet de se retrouver et d'avoir des actions ensemble.
Bah, c'est noté.
Voilà.
Donc du coup, c'est vrai que l'engagement associatif, en fait, au niveau local, peut être aussi un petit peu un tremplin pour l'engagement politique aussi.
Mais bien sûr, faire de l'associatif, être associatif, être bénévole, c'est déjà forcément aimer... faire des rencontres, avoir des projets dans un cadre qui n'est pas professionnel et qui permettent d'utiliser ou d'asseoir ou de se renforcer dans des compétences, dans des savoir-faire, des savoir-être qu'on n'a pas toujours l'occasion de développer ailleurs. À partir de là, bien sûr, quand une équipe se prépare à candidater pour, par exemple, une mairie, elle se rapproche des gens qui sont actifs dans ce genre de dans ces associations.
Et puis faire de la politique au niveau ultra local, c'est pas comme faire de la politique au niveau national.
Alors je n'en fais pas sur le plan national, donc je ne sais pas très bien. Mais en tout cas sur le plan local, c'est avant tout un travail de rencontre, de relations humaines, un travail enfin pour moi, maire adjointe qui m'occupe de l'associatif et du culturel, c'est avant tout trouver comment soutenir et aider des projets initiés par des associations, quelles qu'elles soient.
Bah justement, c'était ma prochaine question. Concrètement, donc du coup, sur la ville d'Argenton, qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner, soutenir les associations ?
Alors d'abord, il faut savoir que justement, on a un tissu associatif très riche à Argenton. On a pas moins de 112 associations, 43 associations ou sections culturelles ou de loisirs, 29 associations ou sections sportives, et puis des associations de solidarité, de mémoire, et puis celles qu'on va dire diverses, parce qu'on ne sait pas très bien où les mettre, mais qui font des tas de choses intéressantes aussi. Et bien sûr, comme on est une ville importante par rapport à tout le territoire qui nous entoure, ces associations n'ont pas que des adhérents strictement argentonnais. En fait, pour 100 adhérents, 35 sont des argentonnais ou argentonnaises, 20 sont de Saint-Marcel ou du Pêchereau, qui sont nos voisins proches, et 45 sont des habitants d'autres communes.
Ah oui, c'est incroyable. Enfin,
c'est normal. Argenton a un rôle de ville-centre. Ça ne veut pas dire qu'on ramène tout chez nous. Ça veut dire que on a eu des moyens et on continue à se donner les moyens de favoriser l'action associative aussi bien. Alors, et là, on en vient à l'aide. Il y a tout ce qui est subvention financière, bien sûr, pour accompagner des projets, des investissements ou le fonctionnement des associations, mais aussi la mise à disposition de locaux de manière permanente, régulière ou ponctuelle. Et on en a énormément argentons, on a de la chance, parce que ça a été travaillé depuis des années. On met à disposition du matériel de tout type, et puis du personnel aussi, dès qu'il s'agit d'organiser des festivals, des manifestations. Les agents municipaux sont mis à contribution. On a toute cette action-là. Et puis, on participe aussi beaucoup, en tant que commune, à la communication de toute cette activité associative par le biais de tous nos modes de communication, par le Facebook de la mairie, par tout ça. Enfin, il y a énormément de choses.
Communal, voilà.
Et puis, il y a enfin quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Notre rôle, c'est aussi de mettre en réseau tout ce fourmillement d'énergie, d'initiatives, d'associations. Par exemple, par l'organisation de forums des assos, qui sont un moment où le public peut rencontrer les associations et s'intéresser en adhérant, mais aussi en devenant bénévole et bénévole actif. Mais c'est aussi, lors de ces forums, le moment où les associations se rencontrent entre elles et découvrent qu'ensemble, elles peuvent mener des projets qui deviennent plus intéressants parce qu'elles se rencontrent. J'ai souvent rencontré cette idée qui est partagée par des gens, mais qui est fausse, que quand on est un sportif, on est un sportif. Quand on est un culturel, on est un culturel. Non, il y a des gens qui font du sport et qui vont au cinéma. Il y a des gens qui font de la musique ou qui en écoutent et qui vont à la piscine. Voilà. C'est amusant, mais c'est vrai, il faut le dire.
Oui, c'est ce qu'on... Enfin,
et donc, les faire se rencontrer, c'est aussi se rendre compte qu'être bénévole ou adhérent d'une association, c'est rencontrer d'autres gens, rencontrer d'autres manières de voir, c'est travailler ensemble à avoir des projets, voilà. C'est très enrichissant. Vous parliez tout à l'heure du bénévolat avec la dame d'Indre Nature.
Et
vraiment, il faut savoir que quand on devient bénévole dans une association... Souvent, on va vous dire, oui, c'est pour rendre service, c'est avant tout pour se faire plaisir, c'est enrichissant d'être bénévole.
Vous en pensez quoi de ça? C'est vrai que sur le bénévolat, sur quelle est la motivation des bénévoles aujourd'hui, c'est bien...
On a l'image des bénévoles de quelqu'un qui va rallier une cause, donc on a cette image-là, et effectivement... à ce moment-là, on peut se demander quelle est la place du bénévole dans une organisation déjà existante. Mais une fois qu'on se réunit et qu'on est tous ensemble, bénévole, c'est plus être au service d'une cause, c'est au service de sa propre cause, au service de ce qu'on peut partager avec les autres, parce qu'on en a envie et qu'on y trouve du plaisir. Donc, faut inviter les gens à se réunir pour constituer des forces politiques, parce que la politique n'appartient pas aux élus, ils en ont une charge importante, mais les citoyens ont l'autre part, ils en ont autant à faire que les élus, les citoyens ont à se rassembler pour faire ce qu'ils ont envie, au-delà du consensus que les politiques doivent trouver. Les associations sont là pour prendre des partis qui ne correspondent pas à tout le monde, où chacun peut s'investir avec les autres en fonction de sa culture, et chacun peut être... très différents, on peut être engagé dans plusieurs associations.
J'ai absolument d'accord avec ce que vous dites, d'autant plus que c'est ce tissu associatif qui va permettre de démultiplier l'action publique au sens large du terme. Une commune, une collectivité ne peut pas tout faire avec des élus. C'est justement parce qu'il y a ce partenariat lorsqu'il fonctionne, et c'est parce qu'il y a en tout cas cette initiative d'associatif qui fait que l'action publique devient vraiment l'action pour tous et toutes.
D'accord, et ben, je pense que c'était bien résumé. On va faire une dernière pause musicale avec une musique que j'apprécie beaucoup, c'est Arne Vinzon, Les Otaries, voilà, et je vous retrouve tout de suite.
Les otaries, les otaries du zoo de Vincennes. Change de couleur, au soleil couchant. Et les lions, les lions, les lions, les lions, les lions qui regardent la scène.
Toujours sur Assolistique pour le dernier quart d'heure. Donc, ce quart d'heure, on va essayer de mettre en place un petit débat. Donc, on a parlé hors antenne avec les invités sur quel sujet il serait intéressant de discuter. Et on parlait beaucoup de gouvernance des associations. Et puis, voilà, en quoi c'est quelque chose d'important. Et puis, quelque chose aussi qui peut être très variable en fonction des associations. Il y a des associations qui sont en collégial, d'autres avec des schémas plus classiques. Donc voilà, je vous laisse à qui veut intervenir en premier sur ce sujet.
Bon,
Nathalie.
Oui, bon, je vais commencer. Alors, nous, c'est typique sûrement d'une grosse association, c'est-à-dire qu'on a en parallèle un conseil d'administration avec un président et des administrateurs, tout le monde est bénévole, et un directeur qui est salarié donc de l'association et qui s'occupe plus particulièrement de la gestion salariale et de toutes les actions à mener. Mais la décision sur les actions à mener, c'est le conseil d'administration qui doit les prendre. Et c'est vrai que donc ça repose sur des bénévoles qui doivent être vraiment très très disponibles.
C'est les 12 bénévoles, dont on parlait au départ.
Ouais. Et donc on avait eu il y a 2 ans un séminaire pour mettre en place, pour essayer de déterminer les actions que l'association voulait mettre en avant pour les prochaines années. Et actuellement on en est à une réflexion sur la gouvernance de l'association au niveau du conseil d'administration pour que ça ne soit pas simple. Seulement, enfin exclusivement le président qui supporte ou un ou deux administrateurs qui supportent le poids des réunions, des actions, des interventions, de la communication. Et c'est vrai que c'est donc un sujet extrêmement important.
C'est vrai que le pouvoir n'est pas forcément que un avantage, c'est un poids qui... Donc là, on peut considérer soit le partage du pouvoir, soit le partage du poids du pouvoir. C'est une vision, effectivement, en réaction à comment les ensembles collectifs se sont fondés avec le temps. Là, le choix qu'on a pris à Koudakouda, c'est de prendre le contre-pied, d'aller vers l'avenir. Donc, comme on n'a pas de pression, parce qu'on est dans un village et qu'on n'a pas d'objectif, donc de repenser la gouvernance en se disant si une gouvernance participative faisant la part la plus belle à la démocratie participative, on a l'idée que ça va être très difficile de prendre des décisions ou de faire avancer des projets.
Vous voulez dire si c'était complètement horizontal, en gros, si tout le monde avait une voix.
Donc, pour ça, on se projette dans une organisation existante en se disant mais comment on pourrait faire fonctionner Indre Nature, par exemple, une grosse association avec déjà un fonctionnement, avec tout le monde un vote. Alors c'est très difficile de se projeter là-dedans. Donc le choix qu'on a fait à Koudakouda, c'est de dire on ne fera rien d'autre que ce qu'on peut faire dans ces conditions. Donc on a tous une voix, tout le monde est invité à participer au conseil d'administration. On a décidé la date de l'Assemblée générale en fonction des gens qui étaient présents à la dernière manifestation. On a pris décision ensemble de dire à quelle date on se retrouve pour qu'on soit tous là et qu'on puisse tous faire partie de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. De ne pas arriver avec des projets pour l'année, des questions.
Pour susciter des idées du débat. Ouais.
Et des idées. Donc, comme l'histoire ne nous a pas fait, ne nous a pas appris comment est-ce qu'on peut faire gérer des structures en France avec une hiérarchie horizontale, eh bien, allons dans un village, allons à Lignac et découvrons ce que ça fait si on donne la même voix à un Anglais, un natif du Berry et le citadin nouvel arrivant. Tout le monde a la même voix, qu'est-ce qu'on fait ensemble et voyons ce qui se passe et ne faisons rien d'autre, n'ayons pas d'autre objectif que celui-là. Que fait naître la démocratie participative et...
Donc vous, Colette, qu'est-ce que vous avez
à apporter ? Étant en charge du milieu associatif à Argentan, je participe à beaucoup d'assemblées générales, beaucoup de conseils d'administration et je vois des modes de fonctionnement très très divers. Et j'en trouve de nouveaux plus collégial, plus participatif horizontalement. On en trouve de plus en plus. Mais c'est dans le modèle de l'association 1901, au départ, c'est forcément un fonctionnement démocratique, alors par représentation plupart du temps, avec conseil d'administration, bureau, président, etc. Mais ce que je trouve intéressant dans les assemblées générales, c'est la prise de conscience par les adhérents de base qui ne font mais c'est quand même quelque chose, participer aux activités ou à l'organisation de ces activités, c'est cette prise de conscience que c'est vraiment de leur responsabilité de s'intéresser au bilan d'activité, au projet d'activité, avec plus ou moins de liberté de parole et de possibilité de parler, de la même manière s'intéresser à tout ce qui est financier, les bilans, les budgets, parce que c'est une vraie question. Les AG dont moi je ressors un peu déçue, c'est quand je me rends compte que les gens ont levé la main sans avoir écouté ce qui s'est passé. Voilà. Et je suis contente quand ça n'arrive pas. Ça arrive de moins en moins.
Là, vous pointez quelque chose d'assez intéressant parce que j'ai l'impression que dans chaque groupe social, le groupe d'humains, il y a, par la force des choses, des gens qui vont s'impliquer plus et des gens qui vont s'impliquer moins. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais comment on peut passer outre ça ? Comment faire que le bilan, le budget prévisionnel de l'année tant soit intéressant et intéresse tout le monde, sachant qu'aujourd'hui, dans les associations, c'est un fait, il y a un noyau dur et des gens qui sont nécessaires également. Ah, je vois que Nathalie a envie de réagir.
Oui, j'ai envie de réagir parce qu'on a trouvé une formule assez intéressante, enfin qui nous plaît bien, qui semble bien fonctionner au niveau de l'Assemblée Générale d'Indre Nature depuis quelques années. Donc il y a évidemment la présentation financière, bilan, etc., qui effectivement n'est pas toujours... intéressante forcément pour les gens du public, mais là on fait beaucoup intervenir en fait les bénévoles, sur qui viennent chacun présenter, par exemple, les 7 groupes de bénévoles qui existent et qui font des actions, viennent un représentant, alors pas de tous les groupes parce qu'on n'a pas le temps, mais viennent présenter l'action de ce groupe-là, par exemple. D'accord. Et donc chaque année ça change. Et il y a les salariés aussi qui viennent présenter une action phare qu'ils ont menée. Ça permet de... Cette année, on a eu un adhérent un nouvel adhérent qui nous a fait le retour nous disant qu'il se rendait compte en venant à l'Assemblée Générale de la diversité et de l'importance de nos actions en fait. Et ça je pense que ça donne envie aux adhérents de devenir bénévoles actifs.
Donc ça serait une manière de les impliquer plus fortement, quoi.
Oui, oui, oui. Voilà.
Raoul, vous avez peut-être quelque chose à apporter.
Par exemple, dans le fonctionnement qu'on a trouvé pour l'instant, enfin, ce qui émerge, ce n'est pas une décision, mais en se répartissant, chacun a une initiative. Par exemple, là, sur la programmation, sur les 15 spectacles, ils ne sont pas tous à l'initiative de la même personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas une personne qui est chargée de la programmation, mais chacun arrive avec ses envies et son projet. Mmh. Et donc, cette personne va gérer le projet. Parce que ça devient son projet, c'est son invité, on lui rappelle, hey, tu t'occupes de ton invité. Et ça ne veut pas dire que le responsable, le porteur du projet, celui qui va donner la vie, qui va donner la naissance du projet, qui va la porter dans son cœur jusqu'à son aboutissement, doit être compétent. Cette personne n'a pas à avoir à faire un discours à la radio pour faire ça, ou avoir les compétences techniques, ou savoir dessiner une affiche. C'est moi qui ai dessiné ça. Je ne suis pas compétent, ça m'a pris un temps complètement dingue de faire la moitié de ça.
Là, il me montre le flyer.
Et Manu a fait l'intérieur. Alors on avait deux ordinateurs, il faisait l'intérieur, je faisais l'extérieur. On se dit, on n'est pas du tout en train de faire la même chose. C'était pas les mêmes couleurs au départ.
Alors l'important, c'est l'envie, c'est plus que la compétence. En fait.
C'est l'envie, et après, les personnes compétentes s'agrègent autour. Je pense que, par exemple, Si moi j'organise je donne l'élan pour un événement ou pour une association, je ne vais pas ramener la même équipe que si c'est Manu, Martin, Guillaume ou Annie qui l'amène, qui chacun va ramener qui sa petite idée, qui sa petite sauce, qui ses ingrédients. Alors on dit ça parce qu'on fait à manger quand on propose un repas à la cloche. Et donc c'est fait avec les produits du potager ou des adhérents. Donc chacun ramène son marché et ramène aussi ses amis, ses invités, qui une fois, qui une autre fois. Et que les bénévoles, c'est d'abord, effectivement, on vient rendre service à un ami, ensuite on rencontre une équipe. Et donc pour moi, le fait de partager la menée des projets, de changer de place, c'est-à-dire que le jour où je suis responsable de la cuisine ou je suis responsable de la technique du spectacle ou d'une action hors les murs, eh bien, je n'ai pas la même équipe. Et c'est pas les mêmes personnes, donc ces personnes trouvent des places différentes, peuvent changer de place dans l'association et se sentir libre d'avoir un espace finalement de plutôt qu'une contrainte de participation à la société, d'avoir une liberté d'échange avec le reste du monde par cette mobilité. Je ne fais par exemple que le porte-parole de la cloche et de Coude à Coude, je ne suis pas le directeur. C'est pas les mêmes fonctions. On peut mener un projet sans être compétent et avoir des compétences et ne pas décider.
D'accord. Mais du coup, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il peut avoir un peu deux façons de voir les choses. Soit les bénévoles, entre guillemets, à tour de rôle, remplissent différentes missions, ou soit ils se spécialisent dans des missions ou en tout cas des rôles dans lesquels ils se retrouvent. Mais moi, je vois un écueil à ça, c'est que, enfin, d'un côté, c'est bien quand tout le monde à tour de rôle fait différentes missions, mais il y a aussi des gens qui, juste par leur savoir-être et parce qu'ils sont, par exemple, ne veulent pas être trésoriers, et que ça, c'est insupportable pour eux. Enfin, voilà,
je comprends, mais vous me faites penser à autre chose aussi. C'est que la spécialisation, c'est quelquefois aussi des idées qu'on a dans la tête et qui sont fausses. Par exemple, sur le plan de l'égalité des hommes et des femmes, on se rend compte dans l'associatif plus qu'ailleurs que... arrêtons avec nos vieilles idées de qui fait quoi, qui sait faire quoi, qui sait prendre la parole, ce seraient les hommes, qui sait préparer le repas, ce seraient les femmes, enfin, etc. Tout ça est en train de changer. Et ce qui est intéressant dans l'associatif, c'est justement, à partir de gens qui ne sont pas forcément compétents dans un domaine précis, ben, ils vont apprendre, parce qu'on peut toujours apprendre. Ils vont apprendre, ils vont prendre plaisir à apprendre, à faire, à essayer, et puis à partager avec les autres. Et je reviens sur ce que je disais au début, pour une fois qu'on n'est pas dans le professionnel, il faut que ce soit efficace, rentable, etc. Mmh. Là, c'est autre chose qu'on recherche dans l'associatif. Et aussi le développement de compétences en dehors des idées clichés qu'on a dans la tête, par exemple sur le genre.
Bien sûr, sur ces beaux mots de Colette, on va se quitter. Donc voilà, c'était assez holistique. C'est fini pour ce soir. Je remercie beaucoup nos invités d'être venus ce soir. Colette Fernic, Nathalie Rigaud et Raoul Petit. Je remercie également Martin et Paulette Sylvain qui étaient à la technique ce soir. Donc c'était un programme présenté par la Ligue de l'Enseignement. Et je serai, ou en tout cas un de mes collègues sera de retour à l'animation le 17 janvier à la même heure, de 18h à 19h. Voilà, d'ici là, bonne fête et à bientôt.
Assolistique, l'émission qui murmure aux oreilles des responsables associatifs. Éducation populaire,
association,
sport,
vie pratique,
humanitaire,
militant,
solidaire,
engagement,
conseil. Assolistique.